La première, c'est au début, justement, que quand tu dis que ça fait du bien à ces enfants adolescents d'être interviewés, qu'on ne réfléchit pas assez à la fonction clinique, finalement, de la participation des gens des sciences sociales à des entreprises médicales, comme, sans aucun but, disons, curatif. Enfin, ton but n'est pas curatif, c'est un but de connaissance, mais ça a un impact clinique sur les gens. Tu leur proposes de les écouter pendant plus d'une heure, 1 heure et demie, etc., pour parler. Ce que les médecins ne font pas. Ils n'ont jamais, on leur fait remplir probablement des grilles d'analyse, enfin des grilles d'évaluation, des échelles.
Des échelles de qualité de vie, oui. Ils ont eu ça aussi.
Mais on prend pas 1 heure, le médecin qui les accompagne ne prend pas 1 heure et demie ou 1 heure pour les écouter avec beaucoup d'intérêt, comme un journaliste qui va valoriser leur expérience, etc. Et il y a un anthropologue américain qui s'appelle Gilbert Herd qui avait écrit tout un chapitre sur, toute une théorie sur l'ethnographie clinique, justement, qui est inspirée de Georges Devreux. Et je crois que ça vaudrait le coup peut-être de réfléchir à ça. Sur la question de l'amélioration et de la compréhension par les patients, enfin, les volontaires pour les essais, de ça. Moi, je me demande si on peut opposer autant les patients et les médecins, et si les médecins, enfin, comme tu l'as dit à propos des guérisseurs, ils ne partagent pas aussi, finalement, ce qu'on pourrait appeler une forme de méconnaissance, je ne dirais pas d'ignorance, mais une forme de méconnaissance, c'est-à-dire d'interprétation de la réalité. Parce que pourquoi ils font tout ça? Finalement, c'est-à-dire, on sait bien que c'est des essais cliniques de phase 1 ou de phase 2, c'est-à-dire qui ne visent pas nécessairement au traitement, hein, mais à la tolérance ou à la toxicité. Hein. Et peut-être que cette idée de l'espoir, qui me rappelle le groupe américain, la vidéo à propos du cancer, elle est partagée par tout le système. Finalement, pourquoi est-ce qu'on fait ces essais? Pourquoi est-ce qu'on met de l'argent dans ces essais? Et parce qu'on a l'espoir, finalement, que ça va marcher. Et l'espoir, il est partagé par les médecins et les patients, finalement.
Non, mais je suis assez d'accord avec toi, parce que même la lettre où elle annonce la fin de l'essai et les résultats, moi, je l'ai trouvée très alambiquée. J'ai dû la lire plusieurs fois avant de comprendre. Et je me suis dit, et j'en ai parlé avec, j'ai pas réussi à voir Isabelle Husson, mais j'en ai parlé avec Vincent, et il me disait, ah bon, tu crois que j'ai dit, oui, mais c'est incompréhensible, en fait, vous parlez d'amélioration, mais c'est pas possible, quoi. C'est normal, en fait, que les gens comprennent pas. Et effectivement, Isabelle Husson, bon, elle était pleine d'espoir, mais en même temps, c'était elle qui menait la chose, mais elle n'était pas du tout dans le registre du médecin qui sait, hein, justement, elle était vraiment dans le registre du médecin qui ne sait pas, c'est une entreprise collective, vous n'êtes pas des sujets passifs, mais vous êtes actifs, vous participez à cet essai en prenant bien les médicaments, en faisant bien les exercices qu'on vous demande de faire. Mais c'est vrai que dans le discours, ça reste assez ambigu quand même. Et moi, je comprends très bien qu'il y ait cette incompréhension entre les médecins, l'équipe soignante et puis les jeunes, parce que les médecins eux-mêmes ne sont pas si clairs que ça, tu as raison. Et au niveau du bien que peut faire l'interview, effectivement, moi je sais pas, mais en tout cas, ce qui leur faisait du bien, c'était de parler d'autre chose que de la maladie, parce que des entretiens longs, ils en avaient, Alain. Ils en avaient, parce que c'est vraiment une recherche pluridisciplinaire. Vincent Amelot, qui est psychologue, il les voyait à chaque fois pour un petit entretien. Alors lui, il allait gratter où ça fait mal. Voilà. Moi, quand les gens commençaient à pleurer, hop, je changeais de direction, j'allais pas gratter. Lui, que gratter. Moi, je parlais plutôt de la vie. Parle-moi de ton copain. Qu'est-ce que tu peux me dire de lui? Voilà, c'était autre chose.
C'était vraiment très intéressant cette question. Et tu as bien fait de souligner ce que ça peut produire, et aussi le fait de parler d'amélioration dans la lettre, parce qu'effectivement, c'est certainement pas sans incidence. Moi, ce qui m'a frappé dans ta présentation, c'est que finalement, je me suis interrogée sur ta posture. C'est que j'avais l'impression que finalement, tu mettais en position. discours des médecins, des psychologues, en disant c'est incroyable, ils n'ont pas compris, alors qu'on vient de leur dire qu'il n'y avait pas d'amélioration possible. Et finalement, je me demandais si tu ne pourrais pas essayer de laisser tomber les analyses en termes de ils sont dans le déni, ils n'ont pas compris ce qu'on se vient de leur expliquer, et essayer de voir ce qu'ils mettent eux sous ces notions d'amélioration, c'est-à-dire que je suppose que ça renvoie à certains signes corporels, physiologiques, qu'est-ce qu'ils entendent, pourquoi est-ce qu'eux voient une amélioration l'un ou l'autre, lui dit non, c'est pas possible, il n'y a rien à voir. Et tu vois, fouiller plus au niveau de finalement des registres de pensée sur lesquels ils
Oui, il va falloir qu'on travaille vraiment ensemble avec Vincent, parce que c'est surtout sur nos entretiens respectifs que porte ce travail-là. Là, je l'ai même déjà un peu trahi, pardon Vincent, parce que lui disait il y a des erreurs d'interprétation, il y a des erreurs cognitives, il était dans l'erreur. Alors moi, je disais non. Je ne vous ai pas dit, ils ont fait des erreurs, j'ai dit, ils refusent, mais en même temps, c'est vrai qu'ils ont des arguments, le temps d'assimilation, chez certains ça marche, chez d'autres ça ne marche pas. Effectivement, moi j'ai senti une amélioration dans mon corps, j'ai commencé, je marchais mieux, donc effectivement, il y a des éléments qui leur permettent, en tout cas, eux, d'avancer que... si, ça marche. Ça marche.
Oui. Oui.
Oui, oui, non, mais il y a du travail encore, c'est vrai. Il faut que je prenne plus de recul, probablement.
Moi aussi, à un moment, je me suis demandé si tu n'étais pas du côté biomédical dans ton analyse, et par exemple dans la manière dont tu parlais de l'AMM, du retrait du marché et de tout ça. Alors moi, c'est marrant parce que je vais en parler un petit peu, enfin si j'ai le temps, j'aimerais bien en parler un petit peu de ça. Mais on voit du coup aussi la complexité, où là, dans un essai clinique, on a un certain nombre de personnes qui ont une espérance de vie extrêmement courte, et on va leur refuser un médicament alors qu'on juge ça sur des critères à 60 ans, âge qu'ils ne sont jamais capables d'atteindre dans l'état actuel de la science. Donc c'est vrai que c'est hyper complexe aussi, cette histoire d'AMM et comment on peut retirer un médicament aussi, c'est pas si simple. Donc ça, je trouvais ça intéressant.
Mais j'étais pas encore inclus dans l'essai à l'époque, enfin dans la recherche. Non, mais je suis arrivée après coup.
Oui, mais tu racontes dans ta manière de raconter... Il y a ça aussi qui apparaît. Après, il y a l'histoire de l'usage profane des statistiques. Alors là, moi, j'ai trouvé ça fascinant, cette histoire. Normalement, on dit toujours que c'est les biomédecins, enfin la biomédecine qui utilise les statistiques avec des probabilités et du coup, toujours une incertitude. Et là, cette incertitude, c'est comme si elle était retournée et que les patients disaient... Oui, mais les résultats, c'est qu'un résultat statistique. Ça se trouve, moi, je ne suis pas dans la statistique générale. Et en tant que personne, peut-être que je fais partie de...
Ça, c'était le biais d'optimisme. On le trouve dans tous les rapports des patients, enfin, les rapports des patients en statistique.
Oui, mais je trouve ça intéressant.
Quand on dit, si vous fumez, moi, j'ai pas ça entre les gouttes. C'est le biais d'optimisme, c'est très...
Oui, mais c'est quand même intéressant de voir cet usage de la statistique de l'autre côté. Et puis par rapport à l'ambivalence des médecins, bon c'est clair, il y en a une. Il y a aussi un truc, c'est que dans les essais cliniques, ils sont obligés d'avoir un certain nombre de cas. Et des fois, moi j'en ai jamais organisé des essais cliniques. J'ai travaillé un moment dans un laboratoire pour en phase 4. Mais j'ai jamais recruté les patients et tout ça. Moi, j'ai toujours été du côté des patients qui disaient « Ah, on m'a proposé un essai clinique » et voilà. Et c'est un peu compliqué parce que des fois, on a l'impression qu'ils ont besoin de recruter et que des fois, leurs arguments, ils peuvent être... des fois, je me pose des questions sur la manière dont ils amènent les arguments. Et effectivement, qu'ils parlent d'amélioration alors que l'enjeu même... de la recherche, c'est pas forcément ça, mais la manière dont ils vont recruter après les patients, Je pense que ça peut être un point aussi qui peut créer ce décalage.
Bon, moi, je n'étais pas là au moment du début, au début. Ouais. Donc, c'est vrai que je n'en dis que ce qu'on en a dit, finalement. Et c'est vrai que je n'ai pas interrogé sur comment est-ce qu'ils avaient... on leur avait présenté la recherche exactement. Enfin, je ne suis pas revenue longuement là-dessus. C'est clair qu'il y a une ambiguïté, parce que si elle utilise le terme amélioration à l'écrit, c'est qu'elle a dû l'utiliser à l'oral également. Hein. Et moi, je dis, et même si moi je l'ai entendu dire, hein, effectivement, c'était juste le but, c'était juste de freiner, on visait la stabilité, mais les personnes, lorsqu'elles entendent amélioration, elles le retiennent, lorsqu'elles ont envie de le retenir, et puis on les comprend. Enfin, moi, amélioration, je comprends que ça va aller mieux, que ça va s'arranger. Je ne comprends pas que ça va se dégrader moins vite.
Oui, c'est ça.
Je vais te faire une question. La première, c'est un peu technique. C'est un essai compassionnel d'un point de vue général.
Alors, en fait, il ne faut pas le dire, c'est un essai compassionnel, le deuxième. C'est enregistré, zut.
On pourra supprimer cette partie-là de l'enregistrement.
Officiellement, c'est pour tester la toxicité de la molécule. Mais en fait, c'était pour donner accès à la molécule aux personnes qui ne pouvaient pas, elles, aller à l'étranger se la procurer.
On l'effacera, mais j'insiste, c'est déclaré juridiquement comme un essai de phase 1 ou comme un essai compassionnel ?
Non, c'est phase 1, effectivement.
C'est le psychologue qui a parlé de erreurs cognitives.
Oui, il disait qu'il y avait des erreurs, effectivement, d'interprétation.
La remarque de Sylvie, ce qui m'étonne, c'est que j'ai pu faire un peu...
Moi, je ne trouve pas qu'il y ait d'erreurs, mais bon, oui.
Sur le chronomique, il y a un truc assez similaire. Moi, je pensais que j'en comprenais mal, et le psy me reprenait en disant que c'est un système de copie, d'adaptation, c'est-à-dire ils entendent ce qu'ils vont entendre, et du coup, tu ne peux pas attaquer ça, parce que ça serait attaquer leur système de défense, et on n'est pas là pour... le mettre en morceau au nom de non, mais vous n'avez pas bien compris. Mmh. Est-ce qui du coup pose le problème entre d'un côté le respect du mode de copying du patient et de l'autre côté tout ce qu'on essaye de faire sur le consentement éclairé, avec vous bien compris ce qui vous arrive, etc. Comment on vit cette tension là? Souvent les psychologues sont quand même plutôt du côté du copying et lui, il est du côté des erreurs cognitives. C'est ça que
nous avons. Il n'y a pas les mêmes interlocuteurs.
Il dit comment vous envisagez l'arrêt de la molécule. Non, il dit, c'est lui son interprétation, c'est une erreur. Mais en même temps, je voudrais pas trop parler en son nom parce que.
Ben moi, du coup, je vais juste me permettre de rebondir sur cette intervention là parce qu'il y a depuis en fait le début des échanges. Ça reprend un peu ce que vous disiez en conclusion, en fait, le lien avec les études que vous avez faites en Afrique de l'Ouest, parce que cette situation, en fait, de maladie grave où il n'y a pas de traitement, etc., c'est typiquement une situation d'échec de la biomédecine où les médecines traditionnelles vont prendre le relais quand il y en a. Et en fait, moi, ce que je trouvais très intéressant dans votre présentation, c'est que finalement, il y a plein de mécanismes que vous décrivez qui sont des mécanismes qu'on va retrouver dans la médecine traditionnelle, justement, pour donner espoir, pour faire avancer. Et en plus, ça marche. C'est-à-dire, c'est ça qui est frappant, c'est que même si physiquement, il n'y a pas d'amélioration, les gens se sentent mieux, le vivent mieux, se sentent guéris. Et ça, c'est, je pense, une thématique. Là, on arrive à la fin de ce colloque. C'est une thématique qui a vraiment, depuis le début de ce colloque, est-ce qu'on parle de guérison en termes de la personne se sent mieux et se sent guérie, ou est-ce qu'on parle de guérison du point de vue purement clinique? Et donc, peut-être, pour terminer la série de questions, après, je pense qu'on en prendra d'autres après la... Oui.
En fait, ça rebondit un peu là-dessus, et en faisant le lien avec la question de la fonction clinique de l'essai, il me semble que ce serait quand même intéressant de regarder ce dispositif et ces cliniques avec les effets thérapeutiques de guérison, il me semble qu'il y a quelque chose là qui est dans l'ordre de la pensée. Comme si il y a la question de la technique magique, la molécule magique qui aura un effet, alors qu'en fait, c'est vraiment tout un dispositif social qui participe au mieux-être physiologique et psychique de la personne. Enfin, donc, voilà, c'est une sorte de question un peu ouverte. J'avais une deuxième question, j'ai oublié, donc je la pose là dans la question.
C'est vrai qu'il y a eu un atelier où on parlait du placebo un peu là. Au début de l'essai, c'est vrai qu'Isabelle Husson, lorsqu'elle m'a intégrée dans l'équipe, elle m'a dit « Regarde, les premiers mois, les résultats, tous, ils avaient un peu progressé en fait. » Donc l'effet est bien là. Hein. Le simple fait d'être dans ce dispositif-là apporte un mieux-être. Alors on ne peut pas l'expliquer cet effet placebo, mais en tout cas on peut le voir et en tout cas il s'épuise quoi, au bout d'un moment ça s'arrête et probablement que d'entrer dans le deuxième essai, moi j'ai pas vu les courbes, elle ne les a pas montrées, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait à nouveau une progression maintenant qu'ils étaient sûrs d'avoir la molécule. Donc c'est un dispositif de prise en charge aussi. C'est pas simplement un dispositif de recherche, mais il y a une réelle amélioration parce que il y a un suivi pas seulement somatique mais psychologique aussi.
Et ça rejoint en fait quelque chose qu'on montrait les travaux dans d'autres contextes. L'essai permet aussi une forme d'accès aux soins. Alors
bien sûr,
France,
la prise en charge.
Il n'y a pas de dépendance, d'obligation d'assignation à rentrer dans un essai pour avoir une prise en charge. Mais ce que vous dites, c'est que quand même, il y a une amélioration globale de la prise en charge, du suivi. Voilà, donc c'est aussi au-delà de la molécule, toute cette organisation et ce que produit l'essai vient au-delà de la délivrance de molécules et aussi en termes de création de communauté. Enfin, c'est une des questions qui est discutée et donc c'était intéressant. Comme vous avez évoqué, le fait que les personnes qui ne s'engagent pas dans une mobilisation associative peuvent, dans la participation à un essai, rencontrer des mêmes. Donc ça crée d'une certaine manière des liens qui sont produits par l'existence du dispositif aussi, bien au-delà du test qu'on est en train de faire et de la politique de l'espoir qui est partagée et par les médecins et par les patients. Enfin, je crois que là, il y a aussi quelque chose qui sert à l'ensemble de cette
Et l'essai qui est instrumentalisé pour servir à la fois la prise en charge et l'espoir dans le long terme avec cette répétition d'essais alors qu'on ne connaît pas l'efficacité. Ça, c'est aussi vraiment le fait de faire un autre essai pour que les gens continuent à avoir accès à la molécule alors qu'on ne sait pas si elle est efficace. C'est sûr que ça provoque aussi énormément de confusion pour les personnes.
Oui,
quoi.
Bien sûr. Mais en tout cas, ils étaient extrêmement rassurés d'être pris en charge par des spécialistes, hein, par des gens très compétents, hyper spécialisés, d'être contrôlés tous les 6 mois vraiment par l'ORL, l'ophtalmo, le kiné, l'ergo. Ils étaient vraiment...
normal.
Voilà, la cardiopathie et... Alors certains ont eu la chance d'être diagnostiqués rapidement et ils ont quasiment tout de suite intégré l'essai, mais il y en a, et c'était des errances thérapeutiques qui ont duré des mois, des années, où ils étaient à la recherche, qu'est-ce qu'ils ont, et dans une totale incertitude, ils ne savaient même pas ce qu'ils avaient, ce qui se passait. Et le fait d'être intégré dans une équipe hyper spécialisée, bien sûr, ça les a rassurés.
Merci.
Beaucoup.
Merci.
Et...